Je vous invite ce matin à prendre votre Bible, à aller dans Luc chapitre 23. Vous savez, pour un prédicateur, c'est toujours embêtant ces dimanches où ce qu'on a un thème très particulier qu'on veut souligner avec dignité, n'est-ce pas? Et comment réussir à souligner avec dignité la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Et veut pas, on est prédicateur, on est humain, on se dit, Seigneur, comment que je peux convaincre, comment que je peux... Et c'est toujours embêtant, je vous avoue. Et depuis quelques semaines, dans mon esprit, j'avais à cœur, et je pense que c'est le Seigneur qui me mettait sur mon cœur, de contempler, de lire les dernières paroles de Jésus. Alors, dans les dernières semaines, j'ai commencé à lire les textes dans les évangiles qui touchaient les dernières paroles de Jésus. C'est-à-dire, par exemple, les dernières paroles de Jésus avec Pilate. Ces derniers moments où il est en train d'être accusé injustement. Comment est-ce que Jésus répond? Quelle attitude Jésus a? Après ça, avec Caïphe, avec Anne, juste un peu avant. Après ça, en chemin vers la croix, où ce qu'il rencontre ces dames qui pleurent en chemin. Qu'est-ce qu'il leur dit? Comment il parle? Vous savez, on dit souvent que les dernières paroles d'une personne disent beaucoup sur son caractère et sa raison d'être dans la vie. Les dernières paroles de Jésus ont été regroupées. En faisant cette recherche-là, je les ai mis toutes de côté. Après ça, j'ai pris une recherche sur Internet pour découvrir qu'il y avait déjà cette habitude d'avoir placé les 7 dernières paroles de Jésus ensemble et traditionnellement dans un ordre. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. J'aimerais avec vous ce matin qu'on regarde chacune des dernières paroles de Jésus, alors que Jésus est sur la croix, qu'il souffre, qu'il est 100% homme, en train de vivre toutes les souffrances atroces que peut impliquer une telle mort de torture sur la croix. C'était le moyen pour les Romains de s'assurer que tu allais les obéir. Une mort tellement atroce que tu dis, « Oh boy, ils vont suivre leur loi parce que moi, je veux pas finir comme ça. » Qui pouvait imaginer une mort aussi pire? Et dans ces derniers moments, les 6 dernières heures de la vie de Jésus, Jésus prononce 7 paroles sur la croix, 7 phrases qui nous dit beaucoup sur sa personne et sur sa mission, sur son identité, et qui nous laisse ce matin, je crois, des choses à réfléchir pour notre vie personnelle. Mais juste avant de faire la lecture, on est le 20 avril. Le 20 avril est significatif non seulement parce que c'est Pâques aujourd'hui, mais une de mes filles, c'est sa fête. Elle est née justement le 20, il y a 22 ans de cela. Ça, toutes les 7 ans, ça arrive que sa fête est la journée de Pâques, le 20. Mais je lisais cette semaine et je suis tombé sur une histoire qui s'est passée un 20 avril et qui, je crois, est significatif pour nous à entendre. Il y a exactement 26 ans, il y avait un massacre, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Columbine, au Colorado. Quelqu'un se rappelle de ça? Et je ne veux pas vous parler du massacre au complet, mais je veux m'arrêter sur une jeune fille de 17 ans qui était là cette journée-là et que peut-être vous ne connaissez pas son nom. Elle s'appelle Rachel Scott. 17 ans, cette jeune fille-là. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial? Cette jeune fille-là était chrétienne. Elle était la première à être frappée par 3 projectiles de la part de ces 2 hommes qui ont assaillé l'école et qui ont tiré un peu partout pour tuer plusieurs personnes, mais surtout des étudiants. Des jeunes hommes en colère. Et on dit qu'ils ont tiré sur cette femme en premier qui était dans les escaliers. Elle est restée là avec 3 balles dans le corps en train de souffrir. Ils ont été tirés d'autres personnes. Ils sont revenus auprès d'elle. Ils l'ont pognée par le chignon, par la tête. Ils l'ont levée et lui ont demandé si elle croyait en Dieu. Et elle a dit oui. Ils lui ont tiré une balle dans la tempe. 17 ans. C'était le 20 avril, il y a 26 ans. Une jeune fille en Amérique du Nord, pour le nom de son Dieu, a prononcé son allégeance à 17 ans. 17 ans! Imaginez! Être prête à se tenir comme ça, une arme sur la tête, sur la tempe, 3 balles dans le corps en train de souffrir et de dire oui. Et sur sa profession de foi, elle a été assassinée pour le nom de son Dieu. C'est spectaculaire! C'était le 20 avril. Pourquoi je vous parle de cette jeune fille-là? Parce que cette jeune fille-là a pris position. Il me dit, comment est-ce qu'une jeune fille comme ça, à 17 ans, et certains d'entre vous êtes un peu plus vieux en majorité que 17 ans, plusieurs plus jeunes que 17 ans, et pourtant Rachel est un modèle pour nous, qu'est-ce qui l'a fait tenir? Et j'aimerais vous dire que Rachel avait une haute vision de Jésus. Et elle savait pourquoi Jésus était venu et elle connaissait sa mission. Pourquoi je peux vous dire ceci? Je vous dis 3 choses sur Rachel. Premièrement, Rachel a 12 ans. Après avoir eu le couple de ses parents, son père était pasteur, son père a amené son couple dans un divorce. et ça a été difficile pour elle. Et Rachel a assisté et vécu une expérience particulière dans un appel un soir, une soirée d'évangélisation. Et à 12 ans, elle a donné sa vie à Jésus. Elle a vécu une expérience où elle a senti la présence de Dieu qui touchait son cœur. Et par conviction, à 12 ans, elle a donné sa vie à Jésus. Ça a commencé là pour Rachel. Deuxième chose, à 14 ans, sa mère a fait un geste banal, mais qui était tellement important. Elle s'était remariée. Rachel vivait un peu de difficulté dans l'adaptation. Sa mère y achetait un journal intime dans lequel elle a commencé à écrire ses pensées dans sa relation avec Dieu, dans ce qu'elle vivait avec Dieu, dans ses lectures, ses luttes, ses prières. Et elle a commencé à écrire. Et pour elle, c'était thérapeutique et c'était vraiment une belle occasion de mettre ce que Dieu lui montrait en écrit. Et de ses écrits sont sortis un livre que son père a écrit qui partage la foi profonde de Rachel. Mais une troisième chose est arrivée aussi que préparée pour ce jour-là, Rachel. Elle avait une relation avec Dieu, elle a donné sa vie, elle a ouvert son cœur et sa mère lui a fait une bénédiction en lui rachetant des cahiers de journal intime. Mais à 16 ans, elle a pris position pour Jésus. Elle a vécu une épreuve et elle était en relation avec un jeune homme et elle a décidé de rompre avec ce jeune homme qu'elle aimait vraiment beaucoup parce qu'elle voulait garder sa pureté sexuelle. Et elle avait de la pression de ce jeune homme-là. Et elle a décidé d'arrêter la relation. Et en plus, au même moment, elle avait été rejetée par 5 amis qui trouvaient qu'elle partageait trop sa foi. Et elle a écrit ceci dans son journal, une année, jour pour jour, avant le 20 avril. 20 avril 98 au lieu de 99, un an avant. Elle écrit ceci dans son journal. Je vous lis deux lignes. « Je n'ai plus d'amis personnels à l'école. » C'est une jeune fille de 16 ans qui dit ça. Mais je sais quoi. Mais tu sais quoi? Ça vaut le coup pour moi. Si je dois tout sacrifier, je le ferai pour Jésus. Elle savait la mission de son Seigneur. Elle savait qui il était. Elle avait une expérience avec lui. Elle avait une relation avec lui. Et elle connaissait sa mission dans la vie, Rachel. Et quand est venu le moment fatidique de ses paroles, je ferai tout pour lui, jusqu'à sacrifier ma vie, un an plus tard, comment elle pouvait imaginer que ça serait le cas qu'elle donnerait sa vie? Pour honorer celui dans lequel elle avait professé le nom de son Dieu. C'était le 20 avril, il y a 26 ans. Et Rachel est un modèle dans cette prise de position. Mais Rachel avait ce que nous, on a besoin de regarder ce matin, une vision claire des paroles de Jésus, de qui est Jésus et quelle est sa mission et pourquoi il est venu. Et ces dernières paroles nous communiquent toutes ces vérités-là qu'on va regarder un derrière l'autre. Dans deux gars, une Bible, cette semaine, la semaine passée, j'ai regardé justement ces paroles de manière plus rapide et entre autres des paroles même avant la croix avec Pilate. Et les paroles de Jésus sont percutantes et nous allons en lire quelques-unes dans Luc, chapitre 23, verset 32. On va commencer là. Chapitre 23 de Luc, verset 32. On va lire 6 versets. On en conduisait aussi d'autres, 2 malfaiteurs, pour les exécuter avec lui. Arrivés au lieu qu'on appelle le crâne, qu'on appelle du latin calvaire, ou en hébreu Golgotha, et on pense que ce lieu-là est possiblement le lieu qui a été trouvé par M. Gordon, où on a comme l'impression que c'est comme un crâne, les rochers de la manière que c'est fait, et encore aujourd'hui, on peut visiter ce lieu. J'ai pu aller prendre le repas du Seigneur dans un jardin juste à côté, un moment extrêmement touchant et intime avec ce que le Seigneur avait fait. Il y a de ça bien des années, j'ai eu cette occasion. Et possiblement, c'est cet endroit-là, le lieu du crâne, à cause de la pierre probablement, et la forme que ça avait. Et ils y crucifièrent ainsi que les 2 malfaiteurs. Et les 2 malfaiteurs, en passant, c'était 2 hommes qui, par les noms qui sont utilisés pour lui ici et dans un autre évangile, étaient des brigands qui n'avaient pas juste volé, mais dont on pourrait dire que c'était un vol à main armée avec une victime à la mort de quelqu'un. C'était violent ce qu'ils avaient fait et ils étaient condamnés à mort. Il est avec des meurtriers, des hommes qui méritent la mort de chaque côté, accomplissant ainsi les Écritures aussi qui disaient qu'ils mourraient accompagnés comme un malfaiteur. Un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait ceci. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort aussi ses vêtements. Un autre évangile en parle un peu plus. Et voici la réaction du peuple. Le peuple restait là et regardait et les chefs, eux, ricanaient. Ils disaient, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même avec moquerie. S'il est Messie, s'il est le Christ, hein, l'élu de Dieu, qu'il se sauve lui-même. Les soldats aussi, eux autres, ils voient tout ça et se moquent de lui. Si son peuple se moque de lui, si les hommes religieux se moquent de lui, ben combien plus les païens autour, ces simples soldats, se moquent de Jésus. Ils s'approchèrent de lui, présentés du vinaigre, et ils dirent, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il avait aussi une inscription au-dessus de lui qui disait, « C'est le roi des Juifs. » Évidemment, avec moquerie, et Pilate l'avait mis là aussi pour un peu écœurer en bon québécois les Juifs qui étaient religieux et qui étaient vraiment en hargne contre Jésus. Mais Jésus donne ses paroles. « Seigneur, pardonne-leur. » Celui qui devrait souffrir à la croix. Écoutez, il ne pouvait même pas porter la croix tellement qu'il était déjà magané par les fouets qui avaient été donnés sur son corps pour se rendre là. C'est pas pour rien qu'il va juste durer six heures sur la croix. Jésus est déjà magané. Il souffre atrocement de par sa première souffrance, mais là en plus, à la croix. Et il trouve moyen d'être en train de prier pour ceux qui lui font du mal et de demander le pardon. Et reconnaissant que ces gens-là ne réalisent pas pleinement ce qu'ils font et qu'ils sont en train de crucifier le Christ. Jésus est en train de mettre en pratique la parole de Dieu, ce que lui-même avait dit, de prier pour nos ennemis. Il est dans ces six heures intenses et il demande que le Seigneur puisse leur pardonner dans la mesure où ce que ceux-ci répondent par la repentance. Pensez-y. Le pardon. Jésus n'en a pas juste parlé dans le sermon sur la montagne. Jésus en a parlé sur la croix lui-même envers ceux qui lui font du mal. C'est frappant de voir Jésus faire cela. Et quelle expression de la grâce de Dieu. Le pardon. Et sur ce thème du pardon, j'aimerais vous citer les paroles de Steve Jones. Steve Jones est notre... On fait partie ici, l'Église baptiste de Trois-Rivières, d'une famille de 500 églises baptistes à travers le Canada. Et Steve Jones, depuis une quinzaine d'années, est notre directeur national, notre président de notre regroupement. Et Steve Jones envoie à toutes les semaines un petit mot. Et il a écrit un petit mot sur le pardon il y a une semaine en rapport avec la préparation pour la Pâque. Et j'aimerais vous lire ces paroles que j'ai trouvées tellement bien et simples et pratiques sur cette question du pardon alors qu'on regarde la croix. Il dit, lorsqu'ils sont arrivés, les missionnaires moraves qui sont venus évangéliser, c'était en Terre-Neuve, les Inuits, ils cherchaient un mot pour le mot pardon en Inuktitut. J'espère le dire comme il faut. Et ils ont créé un mot avec 24 lettres pour exprimer le pardon. Et je ne vous le prononcerai pas, ou peut-être que oui. Isu majiju jun nem milk. Et je suis sûr que je ne le prononce pas comme faux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mot qu'ils ont inventé pour décrire le pardon et le présenter à ce peuple? Et le mot a la connotation suivante, tout simplement. Ne pas pouvoir y penser du tout. L'idée du pardon. Ne pas pouvoir y penser du tout. Telle est l'attitude avec laquelle s'attend Jésus en matière de pardon. Et on lit dans Colossiens chapitre 3 ces paroles suivantes. Supportez-vous les uns les autres, faites-vous grâce réciproquement en parlant de pardon. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Comme Christ pardonne, pardonnez à celui qui est à côté de vous, qui est devant vous, qui est derrière vous, qui est autour de vous. Parce que Christ vous l'a offert, il est naturel et c'est le débordement d'avoir reçu le pardon de Christ, de l'offrir à quelqu'un d'autre. À l'approche de cette période de Pâques-là, disait Steve, il est fondamental de nous en rappeler. Donner et recevoir sont familiers à un croyant authentique. Jésus a donné tout ce qu'il avait et a pardonné tout ce qu'il pouvait. Selon vous, pourquoi est-il important de donner et de pardonner? Parce qu'il est vraisemblablement très difficile d'aimer quelqu'un dont en demeurant fâché ou frustré contre cette dernière. L'amertume divise le cœur et étrangle l'amour dans notre être. Et même le non-pardon est toxique pour nous et nous détruit. Vous me direz, attendez un instant, vous ne me comprenez vraiment pas ce que moi j'ai traversé. Mon père, ma mère, mon conjoint, ma conjointe, mon patron, mon enseignant, mon ami, mon voisin, mon entraîneur, mon pasteur, les gens de mon église m'ont maltraité, m'ont fait vivre telle ou telle chose. Ils doivent payer quelque chose pour ce qu'ils m'ont fait. Et d'une certaine façon, Steve dit, je suis d'accord. Mais en vérité, quelqu'un a déjà payé pour cela, pour toutes ces fautes-là. Vous allez dire, alors, un instant, il ne mérite pas l'amour inconditionnel de Dieu, sa grâce sans faille, ni mon pardon. Encore une fois, je ne suis pas en désaccord avec vous. Pourtant, s'il ne mérite pas, tu ne le mérites pas aussi. Avant de juger et d'exiger un paiement, une réparation, essayez de vous rappeler les dernières fois que vous avez manqué à votre parole envers le Seigneur. En effet, vous n'avez pas que remonter aux dernières 24 heures et vous allez sûrement trouver quelque chose dans notre dernier 24 heures où j'ai manqué. Quelle a été la réaction de Dieu devant mon manque, votre manque, à une promesse? Il a offert le pardon malgré tout. C'est Max Lucado qui a écrit ceci. « La clé pour pardonner un autre consiste à cesser de vous centrer sur ce que les gens vous ont fait et à commencer à vous centrer sur ce que Dieu, par Jésus-Christ, a accompli pour vous à la croix. » Apprenons donc tous l'importance de donner et de recevoir le pardon. Pourquoi? Parce que Jésus l'a fait à la croix, pour ceux qui étaient autour de lui. Parce qu'il l'a offert à la croix aussi à chacun de nous, à celui qui répond, comme celui suivant, comme le brigand, par la confession des péchés. Vous savez, Jésus aurait pu faire un miracle à ce moment-là. Des fois, nous, quand on est dans un malheur, quand on souffre, on dit ça, oh, « Seigneur, libère-moi de ma douleur. Oh, Seigneur, libère-moi de ma maladie. Seigneur, libère-moi de mon cancer. Libère-moi de ce boss qui me donne de la misère. » Et on s'attend à Dieu un miracle, une intervention, lorsqu'on souffre, lorsque c'est difficile. Mais ce n'était pas la prière de Jésus. Ah, vous direz, oui, un peu avant la croix, il a dit, « Seigneur, si tu peux me libérer de cette coupe de jugement, mais pas ma volonté, la tienne. » Dieu merci qu'il a complété sa prière ainsi. Et il n'a pas intervenu. Il n'a pas fait un miracle pour libérer Jésus. Et c'est Philippe Yancey, en réfléchissant à ces réalités-là, auteur qui défend beaucoup la foi, décrit ce qui s'est passé comme un temps de non-miracle lorsque Jésus était à la croix pendant qu'il souffrait là. Jésus ne méritait certainement pas d'être crucifié, mais en continuant d'agir selon le plan d'amour qui avait été établi par le Père Céleste, Dieu s'est servi du mal que Jésus a souffert pour accomplir le bien dont nous avions tant besoin, d'être réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. C'est pour cette raison que Dieu n'a pas fait de miracle ce jour-là pour libérer Jésus de sa souffrance, parce qu'il devait passer par là pour notre bien. Avez-vous l'impression que votre seul espoir de voir la bonté de Dieu à l'œuvre est de voir un miracle accompli dans votre vie? Pensez à ce que Jésus a fait pour vous, non pas malgré les souffrances, mais par les souffrances également. Songez aussi à ce jour de non-miracle de Jésus, ce moment, pourtant il s'est passé des miracles, on va en parler, mais ce moment à la croix, il n'utilise rien pour s'en sortir et une intervention de Dieu qui enlèverait ce moment si important. Pourquoi? Parce que Dieu utilise les difficultés de la vie pour nous aider à avancer. Et il l'a permis à son Fils, pourquoi pas à nous? Donc, les sept paroles de Jésus, la première, pardonne-leur, Seigneur. Ici, une parole de Jésus qui nous encourage à recevoir son pardon et à offrir son pardon également à cause de ce que lui a fait, à cause de son pouvoir qui a été exercé à la croix lorsqu'il a été ensuite ressuscité. La deuxième, juste après, vous connaissez cette histoire dans les versets qui suivent. Regardez au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Pensez-y. Ils parlent à Jésus-Christ. Ils sont condamnés pour un vol qualifié à main armée qui a amené la mort de quelqu'un. Et ils sont en train de parler comme ça à Jésus. Quelle arrogance humaine, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus fait? Mais l'autre reprit en disant, rappelez-vous, l'autre, les deux, viennent d'entendre Jésus dire, « Seigneur, pardonne-leur. » Ils l'ont entendu, Jésus. Ils ont entendu les histoires de Jésus. Et là, ils le voient à côté d'eux. Ils voient comment il interagit avec les gens. Et l'un des deux réalise qu'il a une réponse à donner. et il se tourne vers lui. Mais l'autre reprit, disant, tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine pour nous. C'est juste, dit ce brigand. Mais nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi dans ton règne. Et qu'est-ce que Jésus dit? En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dites-le avec moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est Jésus qui répond à un homme qui souffre à côté de lui et qui a entendu que le pardon que Jésus a demandé et qui répond à cette invitation-là. Et ça nous donne l'exemple, si c'est pas que Jésus a fait le pardon, puis là, tout le monde est pardonné sur la terre, là. L'universalisme. Non, l'homme qui est là nous montre qu'il faut une réponse à ce que Jésus a dit. Un homme repentant qui dit, « Moi, je mérite ce que je reçois. Moi, quand un malheur sur terre qui arrive, je le mérite, je suis un humain pécheur. » Mais lui, il ne le mérite pas. Et quand un homme reconnaît qu'il a ce qu'il mérite, lorsqu'une femme reconnaît qu'il a ce qu'il mérite sur terre comme pécheur, tout à coup, il y a de la place pour se tourner vers Jésus et recevoir son pardon, lui demander pardon. Et cet homme fait cela. Et il demande, « Tu peux-tu m'accueillir? » Quel appel d'un cœur repentant, quel appel d'un cœur de foi en train de souffrir, témoin de Jésus. Exceptionnel de voir cet homme faire sa grande demande à Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il lui accorde, tout simplement. Qu'est-ce qu'on apprend de cette interaction de Jésus? Il est venu pour sauver Jésus. Il ne rejette personne qui se repent. Pas même un criminel, un voleur, un meurtrier. Il offre l'espérance, une certitude. Aujourd'hui, même, tu seras. Il offre une certitude. Peut-être tu vas l'être si tu fais une bonne vie. J'ai pas vraiment le temps pour une bonne vie, là. Je suis comme un peu cloué sur la croix. Jésus, il a pas dit ça. Si tu es baptisé. Non, c'est bien le baptême, mais c'est pas ça qui le qualifiait pour aller au ciel. C'était de croire en Jésus, de demander pardon à Dieu, de croire que cet homme, c'est pas juste un homme, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie tant attendu. Et cet homme-là a cru, sans exception, à condition, évidemment, d'ouvrir son cœur à Jésus. Et cet homme le fait, et Jésus ici montre tout son amour et son attention envers cet homme, alors qu'il est repentant et répond à la miséricorde de Jésus. Un autre texte. Regardez avec moi dans Jean, chapitre 19. On tourne ensemble dans Jean, chapitre 19. J'aimerais que vous le regardiez sur votre téléphone, si vous avez la Bible, ou sinon dans votre Bible, papier devant vous. On va lire quelques versets dans Jean, chapitre 25. Et ça, c'est fascinant. Jean, chapitre... Verset 25, c'est mon genre, ça, c'est ma dyslexie. Alors, chapitre 19 de Jean. La référence, elle est là. Écoutez-moi pas, finalement. Là. Regardez le PowerPoint, vous allez comprendre. C'est intéressant, il y a un musée à Dublin, en Irlande, qui contient les Chester and Beatty manuscripts, les manuscrits de Chester et Beatty qui sont gardés dans un endroit là-bas. Et un des vieux manuscrits de la Bible se trouve à être ces versets-là, le verset 26, un tout petit morceau qu'on peut voir partout sur l'Internet et voir à cet endroit-là qui est gardé et qui date du deuxième, des années 200 quelque chose, avant l'an 300. Cette petite partie-là est préservée d'une Bible qui a été déchirée, brisée avec le temps, mais dont des portions ont été gardées. Et on a cette petite partie du verset 26. Et j'aimerais vous lire ici Jésus à la croix. Qu'est-ce qu'il fait? Versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère. Imaginez la mère de Jésus qui est là. La sœur de sa mère, Marie, mère de Clopas, et Marie de Magdala qui avait été délivrée. Et voyant ici sa mère, près d'elle, le disciple qu'il aimait, qu'on comprend être Jean. Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et ensuite, au disciple, il dit, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Et même la tradition nous dit que lorsque Jean est parti en 70 de Jérusalem, averti parce que le Seigneur avait déjà prophétisé de la destruction de Jérusalem qui allait se passer, Il est parti à Éphèse, et la tradition nous dit que même Marie l'a accompagné lorsqu'il est allé à Éphèse. Ce vieux disciple, le dernier qui est resté et qui a passé une vingtaine d'années à Éphèse, duquel nous est venu aussi les épîtres de Jean, l'Apocalypse de Jean, alors qu'il était emprisonné, gardé dans un camp pénitentiaire sur l'île de Patmos. Jésus est en train de souffrir. Et Jésus pense à la mère Thérèse que Dieu lui a donnée, qu'il aimait. Il avait vu sa mère prendre soin des enfants. Il avait vécu le deuil avec ses frères et sœurs, certainement lorsque Joseph était mort. Il la voit pleurer. Elle a été à différentes occasions dans le ministère de Jésus, avec d'autres femmes qui supportaient le ministère de Jésus. Et Jésus prend soin de sa maman alors qu'il souffre. Ce à quoi je dis, wow! Que c'est touchant de voir Jésus avoir cet égard-là, avoir sa maman. Et là, on voit une autre chose aussi. Tout à coup, Jean, qui n'est pas son fils légal, devient son fils. Et Marie, qui n'est pas la mère légale de sang de Jean, devient sa mère. Il y avait une mère, lui, pourtant. Et pourtant, spirituellement, il dit, ça va être ta mère, ça va être ton... Tu vas en prendre soin. Ça va être ta mère, ça va être ton fils. Tu vas en prendre soin. Et Jésus nous montre ici, déjà dans des enseignements qu'il a fait dans son ministère, que la foi et la famille spirituelle transcendent nos liens de sang, nos liens culturels, nos liens d'appartenance, de choses communes. Il se crée un royaume de gens qui sont de toute langue, de toute nation, nous dit l'Apocalypse, qui sont frères et sœurs. Et c'est plus important la langue que je parle, la tradition, la bouffe que je mange, les épices que je mets dedans, le sang qui coule dans mes veines face à qui d'autre a le même sang le plus proche parce qu'il est dans la même famille. Une nouvelle famille du royaume de Dieu est établie dans ce même geste qu'on voit ici de Jésus. Dans ce Jésus qui a égard pour sa maman dans sa souffrance. Je ne sais pas quoi dire de plus pour parler de comment c'est touchant de voir Jésus faire ça. Quel égard, quel amour, quel respect, autant pour son disciple que pour sa mère. Il est venu créer une nouvelle famille. À travers Marie et Jean, Jésus fonde une communauté unie non par le sang, mais par la foi et l'amour en Jésus-Christ. L'Église naît de ce lien. Touchant, frappant. Quel exemple. Ensuite, immédiatement après, on a une parole qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 27. On va lire quelques versets dans Matthieu 27. Regardez avec moi, 27 et le verset, je ne vais pas me tromper, 45. 27, 45, et on va lire juste ces quelques versets-là. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à trois heures. Vers trois heures, Jésus s'écrie d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient, en l'entendant, « Ah, voilà qu'il appelle Eli, il n'avait pas bien compris le Eli, le « i » à la fin veut dire « mon Dieu », le « moi », tu sais, mais ils l'ont confondu avec Eli. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge et l'imbiba de vinaigre et le fixa au bout d'un roseau, et etc. Et on va retrouver ce texte aussi dans Marc. Il dit, ah, on va attendre voir si Élie vient. Et même cette réflexion-là est d'une folie humaine incroyable. Si Élie vient, t'es dans le trouble aussi. Ça ne va pas améliorer la situation. Mais Jésus ici parle de sa relation avec Dieu. Mon Dieu, quand je pense à toutes les fois que l'expression « mon Dieu » est utilisée autour de moi à la légèreté. On dit quelque chose se passe, « oh mon Dieu! » Et quand tu regardes le Fils de Dieu sur la croix, mais qu'il l'utilise comme il faut, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » On voit un homme qui souffre, qui aime son Dieu, qui aime le Père céleste et qui, là, dans ce moment où ce qu'il porte nos péchés, où ce qu'il est sale maintenant, où ce qu'il est, à cause de ça, Dieu se tourne son regard de son Fils qui porte nos saletés, qui s'est sali les mains pour nous. Il sent ce regard de Dieu. Lui qui a toujours été avec le Père céleste, qui a toujours été en harmonie avec le Père, le Fils, l'Esprit, depuis la création, depuis toujours. Et tout à coup, en portant nos fautes, dans sa relation avec le Père céleste, il nous communique ici une profonde détresse qui est loin de « Oh mon Dieu » qu'on utilise au quotidien, trop souvent, à la légère. Le « Mon Dieu » de Jésus est profond. « Mon Dieu, mon Dieu. » Il a mal. C'est sa relation avec Dieu, c'est son amour pour le Père, c'est sa communion, c'est la connexion qu'il a ensemble, qui dans ce moment-là, il sacrifie pour nous ce moment-là d'intimité qui lui fait mal. On est loin de tous ceux aussi qui, à part qu'à certains pays, veulent montrer qu'ils sont d'allégeance avec Jésus et qu'ils prennent part à sa crucifixion en étant crucifiés eux-mêmes pendant quelque temps. On est loin de ça parce que Jésus n'était pas juste en train de souffrir physiquement d'une crucifixion. Il avait été battu avant. Il avait été trahi avant. Il a déjà mal et il souffre avant d'arriver là. Et il survit à peine. Et rendu là, il a une autre douleur. C'est une douleur spirituelle et relationnelle. Où ce qu'il y a un bris avec son Père céleste alors qu'il paye pour nos fautes comme si c'est lui qui les avait commis. Je pense qu'on a de la misère à comprendre la détresse profonde de Jésus à la croix, comme humain, alors qu'il est coupé de sa relation avec le Père céleste. Et que ce « mon Dieu » est d'une profondeur incroyable à côté de tout ce qu'on entend à la légère autour de nous. Et que ces gens qui se font crucifier pour des raisons religieuses, pour gagner leur ciel, des apparences, ne vivent pas cette détresse-là spirituelle que Jésus vivait profondément touché. J'aimerais vous lire un extrait ici dans le livre de Dane Ortlund, « Doux et humble de cœur ». Il s'attarde à ces paroles de Jésus et je trouve ces paroles exceptionnellement bien écrites. J'aimerais vous les lire ici. Il dit ceci dans son chapitre 22, où ce qu'il parle, il a mis son comble de son amour. Jésus a mis le comble de son amour et Dieu le Père a mis son comble de l'amour à ce moment-là. L'érudit du Nouveau Testament, Richard Buckham, fait remarquer que même si le psaume 22, duquel est tiré ses paroles, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » a été écrit à l'origine en hébreu. Jésus se l'est approprié en le prononçant en araméen. Jésus ne faisait pas que répéter en parallèle l'expérience que David avait vécue un jour dans les psaumes et qu'il avait écrit il y a 1000 ans. Tout cri d'angoisse apparenté au psaume 22, verset 2 qui est cité ici, à travers les millénaires, a plutôt été résumé, réalisé et approfondi en Jésus-Christ. Son cri constitue le véritable psaume 22 de détresse, duquel les nôtres ne sont que l'ombre. En tant que peuple de Dieu, tous nos sentiments d'abandon ont convergé vers un véritable cœur humain en un seul instant d'une horrible angoisse au calvaire, un moment d'abandon réel. Qui pourrait le supporter? Qui ne s'écrierait pas ou ne s'éteindrait pas? Quand la communion avec Dieu a été l'oxygène d'un être humain, son manger et son boire tout au long de sa vie, sans que le péché ne vienne le perturber en un seul moment de sa vie. C'est ce que Jésus a vécu, qui aurait survécu au poids inimaginable de tous nos péchés. Perdre cette profondeur de communion revenait à mourir pour Jésus. L'immense amour au cœur de l'univers s'est alors déchiré en deux. La lumière d'un monde s'éteignait. Et en manifestant sa juste colère, Dieu ne frappait pas un arbre moralement neutre. Il brisait l'éclat de son propre Fils bien-aimé. Il enlaidit et avélit la beauté et la bonté même en Jésus-Christ. Christ a été frappé de Dieu et humilié, nous dit Ésaïe 53, verset 4, afin que nous soyons, nous qui sommes laids, puissions être gracieusement embellis, pardonnés et apaisés pour avoir sa paix. Notre ciel acquis par l'enfer du Christ à la croix. Notre entrée dans l'amour par sa perte de l'amour pour un instant. Alors, voilà ce que signifie mettre le comble de son amour pour nous et que Jésus a mis à la croix. Et lorsqu'il dit ces paroles, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Que Dieu nous accorde de ne plus prononcer un « mon Dieu » à la légère, Que Dieu nous accorde de ne plus entendre ces paroles-là avec légèreté de ce que Jésus vit profondément ici, spirituellement, émotionnellement, relationnellement avec son Père, parce qu'il accepte de le faire par amour pour le Père céleste, pour trouver le moyen, fabriquer le moyen de salut pour nous. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Le cinquième et le sixième se trouvent juste un à côté de l'autre. Je vous invite à aller dans Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19. Et on va lire ces quelques versets dans ces derniers moments de Jésus. Chapitre 19, versets 28 à 30. Après quoi, sachant que dès lors, tout était achevé, Jésus sait où il est rendu dans l'itinéraire de la construction, de la délivrance de notre salut. Sachant que dès lors, tout était achevé, pour que l'Écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il avait là une cruche remplie de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'apporta à sa bouche. Et dès qu'il eut pris le vinaigre, et c'est pas ici le même usage qu'on voit précédemment, qui était anesthésique, je ne dis pas bien, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il dit, dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit, quoi? Tout est achevé, ou tout est accompli. Et il inclina la tête et remit l'esprit. J'ai soif. Jésus, vous savez, est à la croix ici depuis 6 heures de temps. Il était battu avant. Il y avait des bonnes raisons d'avoir soif et d'être déshydraté à la croix. Mais on sent qu'il y a plus qu'une soif physique. Ici, en citant les psaumes encore une fois, le psaume 69, qui est messianique, qui est plusieurs citations liées à Jésus dans ce psaume 69, un des trois principales utilisés dans les psaumes qui sont cités, est clairement messianique. Il a soif, mais il est plus que déshydraté. Il partage, vous savez, la souffrance humaine à ce moment-là. Et de la soif qui vient ici d'être séparé du Père, on sent qu'il y a une soif spirituelle. Il peut sembler même paradoxal que celui qui offrait l'eau de vie soit mort assoiffé ici. Pour la première fois, le Père l'avait abandonné, il se détournait son visage et il portait les péchés du monde. Et ici, sa soif, il y a aussi quelque chose de spirituel. Il partage notre souffrance ici. Cette parole révèle sa douleur physique, mais peut aussi parler de sa douleur spirituelle. Il a soif de notre amour aussi. Il a soif de notre réponse aussi à son offrande. Et il dit tout de suite après, tout est accompli. Sa mission est accomplie. Jésus est venu faire la volonté du Père jusqu'au bout, sa mort, par sa mort, il ouvre un chemin nouveau, celui de la réconciliation entre Dieu et l'humain. Et ici, l'expression qui est utilisée, tétélestai, vous l'avez certainement déjà entendu, mais je vous le rappelle, est un terme important qui peut être utilisé pour différentes choses, mais entre autres pour indiquer qu'une facture avait été payée. Hein, des fois, on écrit sur une facture, payé, c'est étampé, en rouge, tétélestai. La dette est payée. C'est complet. La job est faite au complet. Il pouvait être utilisé également pour une tâche achevée ou un sacrifice offert ou un chef-d'œuvre qui est achevé, qui est complété. Et c'est pas pour rien que que Paul va écrire ceci. Toute sa fierté est dans ce que Christ a fait. Il dit, si j'ai quelque chose à me vanter, c'est tout ce que Christ a fait. Et il dit ceci dans le chapitre 6 de Galates, verset 14, que je me glorifie ou que je me vante jamais que de la croix de notre Seigneur Jésus. Il avait compris que dans la croix de notre Seigneur Jésus, dans ce qu'il a fait, il y a quelque chose d'achevé, de complet, pour lequel il est extrêmement fier. Un peu comme une dette que tu payes depuis 2, 3, 4 ans, et là tu reçois le papier par la poste, c'est fini, tu as tout payé, tu es fier de toi. Mais là ici, il dit, on a bien plus que ça. C'est la dette qui était impossible à payer pour nos péchés. Et elle est réglée si tu crois en lui. Il y a de quoi être fier. Il dit que j'ai rien d'autre de fierté que la croix de Christ par lequel le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. Wow! La volonté de Jésus de prendre notre place est la preuve éternelle de l'amour de Dieu que Dieu porte envers nous. Un prix incroyable. Et ce qui ici est achevé, peut-être ne coûte rien pour nous parce qu'on ne peut pas le gagner, ni y travailler, ni le mériter, mais quelqu'un a payé cher pour que ça soit gratuit pour nous. Quelqu'un a payé très cher pour que je puisse accueillir le plan de sauvetage de Dieu par la foi, à travers la repentance, la reconnaissance de mes péchés et l'accueil du pardon de Jésus et tout ce qu'il est. Et finalement, la dernière parole, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ces derniers mots sont un acte d'abandon ultime de Jésus dans les mains du Père céleste. C'est une prière que les enfants juifs font le soir avant d'aller se coucher. Et notre Seigneur serait donc mort dans cet même esprit, avec confiance et de plein gré. En vainqueur, ceux qui connaissent Jésus comme sauveur peuvent mourir avec cette même assurance, cette même confiance que Jésus, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Je me rappelle quand ma grand-maman est partie. C'était l'attitude dans laquelle elle vivait. Et même elle parlait à son mari, « Chérie, il faut que tu me laisses partir. C'est correct. Je m'en vais rejoindre mon Dieu, puis tu vas venir me rejoindre éventuellement. » C'est le même esprit de confiance totale et d'être en paix. Elle savait dans les mains de qui elle confiait sa vie. Puis c'était correct. Et cette paix, on peut l'avoir comme Jésus, si on croit en Jésus. Au moment où Jésus reste son esprit, on dit que le voile du temple se déchire. Et Marc nous mentionne qu'il se déchire de haut en bas. Marc, chapitre 15, verset 38. Et par ce miracle qui se fait de haut en bas, Dieu s'adresse aux prêtres dans le temple, au peuple, en leur disant, « La voie est désormais grande ouverte. Venez dans ma présence en croyant Jésus. » C'est ce qu'il dit. C'est révolu le temps des autels et des temples. On n'en a plus de besoin. Révolu le temps des prêtres et des sacrifices. Désormais, tout ce que la loi exige d'un pécheur a été accompli parce que Jésus a fait à la croix. Rien de plus, rien de moins. C'est complet, c'est achevé, c'est tétélestai. Et donc, je peux remettre mon esprit entre les mains du Père céleste. Wow! Tenez-vous au pied de la croix de Jésus. Je vous cite ici un auteur. Après avoir regardé tout ça, qui dit ceci, « Tenez-vous au pied de la croix de Jésus. La seule conclusion que vous puissiez tirer, c'est que Jésus est divin. Écoutez le pardonner ceux qui cherchent à le détruire et vous rendrez compte que seul Dieu peut pardonner avec une telle grâce. Surprenez-le à donner de l'espoir au malfaiteur mourant crucifié à côté de lui. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Saisissez ces paroles par-dessus les pleurs des gens, alors qu'il n'y a aucun être, que personne ne peut rien faire pour lui. Mais lui, il remet son esprit à Dieu le Père, se livrant ainsi à la mort. Cet homme n'est pas un mortel pendu au bois, sous une inscription de moqueur, sous la véritable identité. Cet homme, c'est Dieu incarné, accomplissant tout ce qui avait été prophétisé d'avance, c'est le Emmanuel avec nous, Dieu avec nous, sur terre, et qui offre le pardon pour nos péchés. Jésus n'était pas un homme simplement rempli de sagesse. Ne le considérez pas comme rien de moins que Dieu, le Fils. Et ses œuvres et son travail sur la croix prouvent sa divinité. Jésus, c'est Dieu, épelé dans un langage que nous comprenons. Dieu fait homme. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'aimerais récapituler les sept. Qu'est-ce qu'on apprend de chacune d'eux? OK? Des sept paroles de Jésus. La première, quelle leçon est-ce que nous pouvons en retirer? Regardons ce que ces sept paroles nous apprennent sur Jésus et sa mission en rafale. OK? Jésus est venu me pardonner. Même dans la souffrance, il intercède pour ceux qui le persécutent. Il incarne l'amour inconditionnel et le pardon sans limite. C'est un appel à miséricorde, mais surtout à recevoir son pardon, si vous ne l'avez pas reçu ce matin encore. Deuxièmement, Jésus est venu me sauver, en parlant du brigand et en parlant au brigand. Jésus ne rejette personne, pas même un criminel repentant à la dernière heure, alors qu'il ne peut faire aucune œuvre pour montrer sa gratitude, qu'il ne peut pas rien faire pour gagner quoi que ce soit. Il offre l'espérance à tous, sans exception, à condition d'y ouvrir son cœur. Jésus est venu créer une nouvelle famille dont je peux faire partie. À travers Marie et Jean, Jésus fonde une communauté unie, non par le sang, mais par la foi et l'amour. Et l'Église naît dans ce lien que Jésus a fait par son royaume. Quatrièmement, Jésus est pleinement humain. N'allez pas penser que parce que Jésus était sur terre, le Fils de Dieu, qu'il n'a pas ressenti, puis c'était facile pour Jésus là, de passer à travers la croix, là, parce qu'il y avait une grâce spéciale qui faisait qu'il sentait rien. Là. Non, Jésus a tout senti. Émotionnellement, spirituellement, physiquement, psychologiquement, il a tout ressenti. Jésus ressent l'abandon, la souffrance, le doute. Il joint chacun de nous dans nos détresses. Il ne cache pas sa vulnérabilité, il la sanctifie. Et c'est pour ça qu'il dit, hein, dans Hébreux, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui, parce qu'il comprend ce que l'on vit. Jésus partage ma souffrance, cinquièmement. Cette parole révèle sa douleur physique et sa douleur spirituelle. Il a soif de notre amour et de notre réponse aussi à son sacrifice. Cinquièmement, Jésus a accompli, sixièmement, excusez-moi, sa mission. Jésus est venu faire la volonté du Père jusqu'au bout. Par sa mort, il ouvre un chemin nouveau et celui de la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Et finalement, Jésus se confie totalement au Père. Un encouragement pour nous dans toutes circonstances de confier au Père ce que l'on vit, de lui faire confiance, il mérite toute ma confiance. Et dans la confiance absolue, Jésus remet sa vie et nous apprend à abandonner les nôtres entre les mains de Dieu en toute paix. Voilà les leçons qu'on a. Les sept paroles de Jésus nous apprennent qui il est et nous apprend aussi c'est quoi sa mission. Comment répondre à Jésus? Qu'est-ce que sa mission change dans ma vie? On termine en conclusion avec ces deux passages. Le centurion, on a dit que le centurion qui était présent, qui a vu tout ça, à la vue du tremblement de terre, de ce qui arrivait, le centurion et ceux qui étaient avec lui, qui gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Matthieu, Marc et Luc nous racontent la réaction de cet homme témoin de la souffrance de Jésus, qui a entendu les sept paroles de Jésus, ces sept phrases dans ces six dernières heures, qui a vu les gens interagir, qui a vu aussi les dernières trois heures qui étaient sombres, et qui a vu l'attitude de Jésus tout au long de sa crucifixion et ses paroles. Et cet homme-là, en voyant tout ça, en entendant ce qu'on parle ce matin, il dit certainement, véritablement, cet homme, c'est le Fils de Dieu. Il est ce qu'il dit être. Le vrai, l'authentique, le puissant, le tant attendu Messie. Cet homme qui est un païen, cet homme qui n'est pas des Juifs, cet homme qui est juste témoin de la souffrance et de la mort de Jésus, c'est assez pour le convaincre sur qui est Jésus. Et il y croit. Il y croit. C'est pas pour rien aussi que Jean va terminer en disant ceci, les paroles de l'apôtre Jean dans le chapitre 19, verset 35, après les paroles qu'on a lues tantôt. Et Jean est clair sur son intention de son récit et de l'invitation de Jésus. Celui qu'il a vu en rend témoignage. Il dit, moi j'étais là, Jean. J'en rends témoignage. Et son témoignage, il est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Tout comme ce centurion a cru, Jean nous dit, tout ça vous est raconté pour que vous aussi, auditeurs, 100 ans, 300 ans, 500 ans après la mort de Jésus, 1000 ans après la mort de Jésus, 2000 ans après la mort de Jésus, que vous réagissez de la même façon. Vous êtes invités à croire, à arrêter d'observer Jésus à la croix, à arrêter d'entendre ses paroles, mais de les saisir, de demander pardon et de lui donner votre vie, de croire en lui. C'est encore la même invitation qui n'a pas changé depuis 2000 ans et que Jean nous raconte. C'est pour ça que je vous ai donné ces paroles. Je termine avec une histoire. On aime ça les histoires, hein? Un missionnaire, un jour, est en train de prêcher dans une tribu et très isolé. Et le chef de tribu était là, là, dans la première rangée, en train d'écouter l'histoire du missionnaire. Et l'histoire du missionnaire, mais évidemment, il racontait tout ce qu'on vous raconte aujourd'hui en lisant les passages de la Bible, il racontait la crucifixion de Jésus. Après avoir raconté sa vie, d'avoir instruit sur Jésus, et là, de raconter tout son sacrifice, il est en train d'arriver au point culminant de l'histoire et de raconter l'horrible crucifixion de Jésus. Et le chef ne put se contenir. Lorsqu'il a entendu que Jésus était là sur la croix, il a dit « Arrêtez, descendez-le de la croix, je devrais y être. » Il a pris conscience en l'écoutant, mais c'est moi qui devrais être là, pas lui. Et alors qu'on écoute cette histoire de Jésus, ça devrait être notre réaction à chacun d'entre nous, qu'on ait 10 ans, qu'on ait 20 ans, 40 ou 80, c'est moi qui devrais être là. C'est moi qui devrais être là, c'est moi le pécheur, pas lui. Merci Seigneur d'avoir pris ma place. Merci Seigneur d'avoir pris ma place. Et c'est pour ça que tout à coup, lorsque tu as cru en Jésus, tu réalises que tu as pris ta place. Paul va dire ceci, j'ai été crucifié avec Christ à cause de ça, parce que j'ai cru. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce qu'il a pris ma place. J'ai été crucifié avec lui. Tu n'es plus obligé de vivre comme avant. Tu n'es plus obligé de vivre dans tes vices. Tu n'es plus obligé de mentir comme avant pour couvrir tes arrières. Tu n'es plus obligé de juste être contrôlé par tes désirs. Tu peux dire non. Tu peux, avec Jésus, être conduit dans une vie de satisfaction sans regret continuel. C'est fini l'obligation si Jésus est en toi et t'as cru en lui. J'aimerais inviter l'équipe à s'avancer. On va terminer dans la louange, un dernier chant ce matin. Et je vous invite à un instant de réflexion à votre siège et de prier avec moi et de répondre à cette invitation de l'Évangile de Jean, de croire. Prions ensemble, s'il vous plaît. Courbons-nous dans un instant de recueillement et fermons les yeux juste pour ne pas être distrait, juste pour se garder focus. Et je vous invite à parler à Dieu ce matin. Peu importe ce qu'il parle ce matin à votre cœur, sur son identité, sur le pardon, sur lui remettre quelque chose qui vous pèse, de trouver le repos en lui remettant votre esprit, votre souci, votre âme. Parlez-lui ce matin sur ce qu'il vous parle ce matin. Le Seigneur ne vous a pas fait entendre ces 7 dernières paroles pour en être indifférent et sortir d'ici en faisant rien. Ces paroles, si on les entend bien et on les a saisies, ne peuvent pas nous laisser indifférents. Ô Père Céleste, on te prie ce matin, en te priant de parler à nos cœurs, qu'on ne soit pas encore en train d'écouter un autre sermon, une autre lecture des Écritures et qu'on parte indifférent au Père Céleste parce que nous parlons ici des dernières paroles de notre Seigneur, les dernières paroles du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs qui va revenir bientôt. Et nous voulons être prêts, Seigneur, en regardant, Seigneur, ta mort et ta résurrection, à part qu'on se rappelle que tu reviens bientôt et on veut être prêts, Seigneur, qu'on ne soit pas pris au dépourvu, pas prêt, distrait par tout ce que le monde nous offre, alors que tes dernières paroles nous montrent que tu nous as tout donné, ce qu'on a de besoin sur cette terre pour vivre avec satisfaction, sans regret. Ô Père Céleste, merci pour ton Fils qui a été jusqu'au bout. Merci pour ces paroles qui nous rappellent tout ce que Jésus est pour nous, tout ce qu'il est pour toi, tout ce qu'il est pour ce monde. Et Seigneur, que nos cœurs répondent ce matin et lui donnent encore et encore, mon âme, mon corps, mon esprit, tout entier, qu'il t'appartienne, ô Père Céleste. Je veux croire en ton Fils. Je lui céder la place. Que ta victoire à la croix soit aussi ma victoire au quotidien sur mes défis. J'aimerais te remettre mes défis ce matin, Seigneur, mes inquiétudes, cette personne que je n'arrive pas à pardonner, alors que toi, tu m'as pardonné et que je ne le méritais pas. Seigneur, je ne le ferai pas sans ton aide. Aide-moi ce matin. Ce péché récurrent que je continue à me vautrer dedans, à minimiser, parce que je ne vois pas l'ampleur de ta sainteté et je ne vois pas l'ampleur du mal que je côtoie chaque jour et que je côtoie avec aisance le péché et le banalise. Seigneur, pardonne-moi de banaliser le péché dans ma vie alors que tu es mort pour moi. Peut-être ce matin, je n'ai pas encore donné ma vie. Que je résiste, j'explique, je raisonne. L'histoire de Jésus, c'est de l'information, c'est un livre, c'est une histoire, mais ce n'est pas l'histoire qui transforme ma vie. Et peut-être ce matin, le Seigneur t'invite à la repentance, à lui demander pardon pour tes péchés et lui céder ta vie pour la toute première fois. Seigneur, prends ma vie, je te demande pardon. Je ne le mérite pas, mais je crois à ton Fils Jésus. Et je crois qui il est et ce qu'il a fait. Et ce matin, je veux te donner ma vie. Je te la remets, Seigneur, je l'abandonne entre tes mains parce que moi, je suis en train de la perdre. Et je te prie de prendre toute la place qui t'appartient. Et nous te prions, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.